Le journal de la rédaction vous est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Nous allons commencer ce journal avec un reportage poignant. Ce sera sur le pont de l'Aquarius. Nous irons rejoindre notre envoyée spéciale Maureen Mercier. Elle a recueilli la parole de rescapés, de l'horreur, témoignage presque insoutenable à suivre. Nous irons également regarder un état des lieux de tout ce qui se passe en ce moment au niveau des infrastructures des ponts européens. Jean-Marc Chardon a analysé l'état actuel des structures en Europe. Alors que la polémique enfle en Italie après l'effondrement d'un pont à Gênes.
Une figure de la défense des droits de l'homme en Iran, emprisonnée depuis 2 mois, Sophie Delpont.
L'avocate Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov. Les précisions à suivre dans ce journal de Valérie Krova.
Nous irons aussi en Turquie recueillir la parole des habitants tiraillés dans le bras de fer entre Washington et Ankara.
Un reportage d'Anand Lauer à Istanbul à suivre. Et puis en France, les mouvements de jeunes militants sont en pleine restructuration, à droite comme à gauche, nous dira Lucas Caltritti. On commence donc cette édition avec ce reportage poignant après le débarquement des rescapés de l'Aquarius hier, après les cris de joie à leur arrivée à Malte. Ils sont 141 migrants, dont beaucoup originaires de Somalie et d'Érythrée. Ils doivent maintenant raconter leur histoire aux enquêteurs avant d'être répartis dans les 5 pays volontaires pour les accueillir. Ces hommes, ces femmes et ces enfants ont été sauvés au large de la Libye vendredi, traumatisés par leur expérience. Maureen Mercier a recueilli le témoignage de l'un d'entre eux, une parole presque insoutenable.
Il s'est décidé à briser le tabou, à révéler ce que personne ici sur le pont n'ose évoquer et que pourtant tout le monde connaît.
Ils ont demandé aux 2 personnes de se sodomiser.
Les violences sexuelles subies par les hommes.
Il achète un conteneur, il met chez lui et vous fout dedans. Devant tout le monde, il vous demande de vous caresser, mais ils sont contents. Tu jamais vu. Tous sont là avec des téléphones, ils filment.
Et si vous refusez ?
Ils vont vous prendre, ils vont vous attacher et ils vont vous sodomiser.
La deuxième fois qu'on lui inflige cela, c'est lorsqu'il tente de s'évader.
En plein désert, ils nous ont rattrapés.
Celui qui les guidait ?
C'est lui qui a subi des abus. Ils prennent des comprimés pour booster leur libido, pour faire du mal. Il était bousillé, le sang partout. Je ne sais pas s'il a survécu.
Lui a été épargné, il n'a pas été violé, mais contraint, comme tant d'autres en Libye, à devoir assister à ces scènes cauchemardesques.
Je me sentais mort. Je me disais si l'idée leur traverse l'esprit de passer sur moi. C'était traumatisant. On peut continuer après ?
Trop difficile de poursuivre, mais l'essentiel est dit.
Maureen Mercier, l'envoyée spéciale de France Culture à bord de l'Aquarius. La France accueillera 60 de ses rescapés. Cette histoire et tant d'autres sera racontée à la dizaine d'agents de l'Office français des réfugiés et apatrides qui arrivent aujourd'hui à Malte. Pascal Brice est le directeur général de l'OFPRA. Il est en ce moment sur place. Il nous détaille la procédure de l'entretien à l'arrivée éventuelle en France.
C'est un officier de protection qui entend chaque personne en présence d'un interprète. En règle générale, c'est une heure et demie. De manière à ce que ces personnes puissent faire valoir leurs craintes dans leur pays d'origine, nous expliquer les raisons pour lesquelles elles sont parties, nous faire part aussi de ces parcours extrêmement pénibles et douloureux, y compris sur ces navires en Méditerranée, et de manière à nous permettre de statuer sur leur demande d'asile. C'est l'application du droit international, de la Convention de Genève. Ce sont le plus souvent des personnes qui ont fui l'Érythrée, le Soudan, la Somalie. Il revient ensuite au gouvernement français d'organiser l'arrivée de ces personnes en France. C'est en quelques jours, maximum d'une semaine. Dès leur arrivée sur le territoire national, très vite, nous leur confirmons cette décision de protection qui donne accès à un titre de séjour de 10 ans, de manière à ce que les personnes puissent se reconstruire. Et nous souhaitons qu'au-delà de ces missions-là, ponctuelles, ce soit un véritable système qui apparaisse pour que les personnes puissent être protégées et accueillies dignement.
Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA, répondait à Camille Revel. En tout, 5 pays de l'Union européenne accueilleront les migrants, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et le Luxembourg qui se répartissent les migrants de l'Aquarius ainsi que les 114 autres personnes secourues lundi par un bateau patrouilleur maltais.
À Gênes, l'état d'urgence instauré pour 1 an après l'effondrement du pont d'autoroute qui a fait 39 morts, Sophie Delpont.
Oui, après la catastrophe de mardi, le gouvernement italien a annoncé un audit général des ponts et tunnels dans toute la péninsule. Il pointe la responsabilité du gestionnaire de l'autoroute à Autostrade per l'Italia, à qui il a retiré son droit d'exploitation. Mais plus largement, c'est le vieillissement et les questions de maintenance des ponts et des routes qui est publiquement posé. Un problème qui se pose à l'échelle européenne, Jean-Marc Chardon.
Et il n'y a pas que les Italiens qui ont lieu de s'inquiéter de l'état de leurs infrastructures. En France aussi, la question est bien posée, singulièrement depuis la publication d'un rapport sénatorial au printemps, lequel a pointé la dégradation du réseau routier, avec des routes nationales détériorées pour 17% d'entre elles. Mais dans la foulée, on allait prendre conscience à travers un audit commandé par le ministère des Transports que nombre de ponts aussi étaient mal en point, 4000 d'entre eux nécessitant des réparations, près du tiers du parc existant. Sachant qu'un pont est emprunté par un véhicule sur 6 en moyenne, impossible de contourner le problème. En mai dernier d'ailleurs, la ministre des Transports reconnaissait déjà que près d'un pont sur 10 était en mauvais état, tout en prenant soin d'ajouter que les ponts faisaient l'objet de visites annuelles et d'autres plus détaillées. Une situation qui interpelle aussi nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni, qui consacre 80 000 euros par kilomètre pour ses ponts et ses routes contre 50 000 dans l'Hexagone. Situation suffisamment préoccupante en tout cas pour que des industriels de la construction se soient réunis à Bruxelles au mois d'avril. Venus de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, Pays-Bas et Italie, ils ont lancé le premier groupe de travail européen sur les ponts, posant ainsi la question de leur maintenance à grande échelle. 800 000 ponts qui pourraient passer sous le regard d'un observatoire européen des ouvrages d'art et plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements à programmer pour les prochaines décennies en Europe.
Jean-Marc Chardon, retour à la table des négociations pour le Brexit pour les pays de l'Union européenne qui doivent trouver un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne avant le prochain Conseil de l'UE. Ce sera le 18 octobre prochain. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat des Britanniques stagne, entraînant faillite et restructuration de magasins de détail. Dernière en date, c'est la chaîne britannique de magasins de bricolage, Homebase, qui a annoncé cette semaine la fermeture de 42 magasins en Grande-Bretagne et en Irlande et la suppression de 1500 emplois. Annabelle Grelier.
Homebase explique que ses ventes et sa rentabilité se sont fortement dégradées au cours des deux dernières années, évoquant un contexte extrêmement difficile pour le commerce, frappé par la faible confiance des consommateurs et une baisse des dépenses. Propos qui confirment la débâcle du commerce physique au Royaume-Uni qui n'en finit pas, précipité par la concurrence des ventes sur Internet et la prudence des consommateurs sur fond de Brexit. Cette année, des milliers d'emplois ont été détruits avec la faillite des magasins de la branche britannique de Toys R Us. Des restructurations sont également en cours dans l'enseigne de vêtements New Look et celle des vêtements pour enfants Mother Care, ainsi que le groupe Marks & Spencer, qui prévoit également de fermer plus d'une centaine de magasins d'ici 2022. Les grands magasins House of Fraser ont prévu de fermer, eux, la moitié de leurs 60 établissements, dont celui emblématique sur Oxford Street, au cœur de Londres. L'enseigne vient d'être rachetée par la chaîne d'articles de sport Sport Direct, détenue par Mike Ashley, un grand patron contre en raison des conditions de travail de ses employés jugées inacceptables par les syndicats et une partie de la presse. Le prix sans doute à payer pour conserver des magasins dans un pays devenu leader européen du commerce digital.
Annabelle Grelier. C'est une première en Europe. Le gouvernement allemand a adopté un projet de loi sur un troisième genre. À côté de féminin ou masculin, la mention divers pourrait être mentionnée sur les certificats de naissance. Le texte doit encore être approuvé par la Chambre des députés. Personne ne doit être discriminé en raison de son identité sexuelle, a déclaré la ministre de la Justice social-démocrate, Katharina Barley. En Turquie, la population est prise en étau dans le bras de fer économique entre Washington et Ankara. Le président turc Erdogan a fortement augmenté hier les droits de douane des produits américains importés, notamment les voitures de tourisme, l'alcool ou encore le riz, après des sanctions prises par Washington vendredi. Comment les habitants voient-ils l'escalade diplomatique et les sanctions prises de part et d'autre? À Istanbul, le reportage d'Anand Lower.
Assis devant son épicerie du centre d'Istanbul, Idris dit soutenir sans réserve les sanctions qui visent les produits en provenance des États-Unis.
En tant que citoyen de ce pays, nous devons faire bloc derrière le gouvernement, sinon les États-Unis vont nous manger tout cru. Ils n'attendent que ça.
Chez certains Turcs comme Idris, les contre-représailles sont d'autant plus bienvenues qu'elles flattent un sentiment anti-américain répandu dans la société. Mais plus il suit l'effondrement de sa monnaie face au dollar, plus Hassan, un barbier, en vient à souhaiter l'apaisement.
Cette histoire va nous coûter cher parce que nous importons énormément des États-Unis. Il faut être réaliste. Les États-Unis sont une superpuissance. Ce n'est pas dans notre intérêt de nous obstiner face à eux de cette façon. Je suis favorable à un compromis.
Le barbier turc raconte que la chute de la livre face au dollar et à l'euro, et donc de son pouvoir d'achat, a déjà des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Il avait prévu un voyage en Espagne à l'automne, il y a renoncé. Il ne commandera pas non plus le rasoir de marque allemande dans lequel il voulait investir pour son petit salon. Ça n'empêche pas d'attendre un soutien des Européens.
Face à ces attaques de l'Amérique contre la Turquie, les pays européens devraient se montrer solidaires de notre pays. Il n'y a que notre union qui puisse pousser Trump à cesser ses guerres commerciales.
Ali, son collègue, est inquiet à l'idée que ces cigarettes de marque américaine deviennent encore plus chères. Mais il prend la nouvelle avec philosophie.
Le prix de mon paquet est déjà passé de 11 à 13 livres cette année. Ça pourrait être l'occasion de changer de marque ou même carrément d'arrêter de fumer.
Une idée qui ne déplairait pas au chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan pratique depuis des années une politique de hausse des taxes pour détourner ses citoyens du tabac et de l'alcool.
Anand Lower à Istanbul pour France Culture. L'émir du Qatar a promis hier 15 milliards d'euros d'investissement direct à la Turquie.
C'est l'une des figures de la défense des droits de l'homme en Iran. L'avocate Nasrin Sotoudeh est en prison depuis deux mois, Sophie Delpont.
Oui, lauréate du prix Sakharov en 2012, elle est accusée notamment d'espionnage. Mais elle paye surtout ses multiples engagements en faveur des droits de l'homme et de la femme, soulignent ses avocats. Il dénonce les motifs de son arrestation et réclame sa remise en liberté, Valérie Krova.
C'est à la prison d'Evin de Téhéran, où sont détenus de nombreux prisonniers politiques, que Nasrin Sotoudeh est incarcérée depuis le 13 juin. Une prison qu'elle connaît bien, puisqu'elle y a séjourné de 2010 à 2013, après avoir défendu des opposants arrêtés lors des manifestations de 2009 contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. À l'époque, les autorités iraniennes avaient estimé que l'avocate avait agi contre la sécurité nationale et qu'elle répandait une propagande anti-régime. Un prétexte de nouveau utilisé contre elle récemment, quand Nasrin Sotoudeh a défendu des jeunes femmes qui ont osé braver l'interdiction d'enlever leur voile en public. La justice iranienne a par ailleurs ressorti des accusations d'espionnage pour lesquelles l'avocate risque 5 ans de prison. Hier, l'un de ses défenseurs a fait valoir qu'il n'existait aucun rapport du ministère des renseignements iranien, l'accusant d'être une espionne, que les charges qui pèsent sur Nasrin Sotoudeh ne tenaient pas et que son emprisonnement serait donc illégal. Et d'ajouter que la raison de son incarcération serait tout autre, la militante des droits de l'homme n'a jamais caché son engagement contre la peine de mort. Or, l'Iran est le pays où l'on exécute le plus après la Chine. Dans son bureau à Téhéran, désormais désert, Nasrin Sotoudeh, qui a défendu par le passé d'autres militantes, dont la prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, a mis en évidence sur une étagère une balance, symbole de la justice.
Valérie Krova. En France, on se penche ce matin sur la restructuration des mouvements de jeunes militants au sein des partis politiques. Les Jeunes Républicains n'ont plus de président depuis plus d'un an. Le mouvement des jeunes socialistes a explosé après le départ de sa présidente chez Benoît Hamon et son mouvement Génération. Et Lucas Calretti, à droite comme à gauche, tout l'enjeu de ces enfants de la politique, c'est désormais de faire accepter leur idéologie qui n'est pas forcément celle du parti.
Éric Tegner n'est pas le favori pour devenir le prochain président des Jeunes Républicains, mais le Breton de 24 ans veut faire entendre ses idées. Pour lui, il est temps de faire une grande coalition de droite avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan.
Les enjeux de cette campagne, c'est d'essayer de restaurer une forme de radicalité en politique pour parler justement à toute une jeunesse de droite qu'on a perdue, une jeunesse conservatrice qui par exemple a été issue des manifs pour tous, une jeunesse identitaire qui se sent dépossédée culturellement. Aujourd'hui, il faut essayer de sortir de ces luttes d'appareil dans lesquelles aujourd'hui les Républicains sont mis et être capable de dialoguer avec des partis comme le Rassemblement National ou avec Debout la France. Donc l'objectif, c'est d'aller à la reconquête de toute cette jeunesse qui aujourd'hui d'ailleurs parfois ne vote quasiment plus.
Pourtant Laurent Wauquiez a insisté, pas d'alliance entre LR et le Rassemblement National. Et c'est sur un désaccord politique que Roxane Lundy a quitté la présidence du mouvement des jeunes socialistes. Désormais aux côtés de Benoît Hamon, elle a tout simplement souhaité être en accord avec ses convictions.
On s'est dit que l'outil militant qui devait être notre aujourd'hui, c'était celui de Génération. C'est là qu'on se pose les vraies questions. C'est là qu'aujourd'hui, la gauche recommence à se poser des questions qu'on ne se posait plus depuis longtemps aussi, hein. Notamment sur le revenu universel d'existence, sur la dimension écologique qui est absolument centrale au sein de Génération. Et on vient y apporter notre énergie militante.
Génération ne se prononce pas sur le nombre de jeunes que compte son organisation, mais assure qu'ils sont actifs, ils ont tracté tout l'été.
Lucas Caltritti. Un grand ciel bleu aujourd'hui sur la majorité du territoire, à l'exception de la pointe bretonne et du littoral normand. De la pluie est annoncée, température comprise entre 18 et 20 degrés sur la Bretagne, 20 à 28 sur le reste du territoire. Et cet après-midi, 29 à Bordeaux, Paris et Marseille.